Bonjour à tous. L'Europe unanime pour un plan de relance économique historique, mais que l'accord fut long à trouver, objectif atteint ce matin à Bruxelles, au terme de 4 jours d'intenses discussions. Ce succès acquis par la grande famille européenne, parfois au bord de la crise de nerfs, induit de nouveaux rapports avec le reste du monde. Charles Michel, le président du Conseil européen, évoque précisément le cas chinois et Marie Viennot nous dira ensuite ce que recouvrent les sommes en question et la manière dont elles seront financées par l'Europe. Olivier Véran détaille ce matin les mesures en faveur du secteur sanitaire en termes d'organisation, aussi bien dans le public qu'en ville. C'est l'occasion de constater si l'État va tenir ou non ses engagements et rassurer les professionnels sous pression, il faut le dire, depuis des années. Wafia Kenich nous détaillera quelques-unes des mesures annoncées tout à l'heure. Au sommaire également, les dernières auditions des candidats. La présidence de France Télévisions, Benoît Grossin, s'intéresse dans ce journal aux attentes des syndicats du groupe audiovisuel public. Et puis l'ours polaire, promis à l'extinction d'ici 2100. Véronique Robérotte nous dira en fin de journal ce qui explique cette terrible échéance. Toutes les places boursières européennes à la hausse ce matin. Paris, Francfort et même Londres. Manière de saluer l'accord européen sur le plan de relance accouché ce matin à Bruxelles par les 27 pays de l'Union. Il aura fallu 4 jours d'intenses tractations pour y parvenir sur fond de dissonance entre le duo franco-allemand et le quintet des pays dits frugaux. 750 milliards d'euros, c'est le montant total de ce plan de relance. 390 sous forme de subventions, somme revue à la baisse, vous le savez, par rapport aux souhaits de Paris et Berlin. 360 milliards sous forme de prêts remboursables. Avant de tenter d'y voir plus clair dans cette réponse collective à la crise générée par le coronavirus, je vous propose le point de vue de Charles Michel, le président du Conseil européen. Il était ce matin l'invité de France Inter. Il s'est bien sûr félicité du caractère historique de cet accord à l'intérieur du bloc européen, mais aussi par rapport aux autres géants économiques, comme par exemple la Chine.
Ce qui a été décidé aujourd'hui est beaucoup plus stratégique que cela. Nous avons une ambition très très forte. Nous considérons effectivement qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis longtemps, l'Europe a été naïve. Naïve par rapport à la Chine, par exemple, à d'autres grandes régions du monde qui ont pratiqué massivement du dumping social, environnemental. Et d'un côté, les Européens ont parfois laissé leurs frontières ouvertes sans que, dans le même temps, il y ait de la réciprocité. Et sans que, dans le même temps, il y ait des entreprises européennes qui aient la capacité de faire des affaires, de faire du commerce vers d'autres grandes économies, comme c'est le cas en Chine, où des barrières, parfois même déguisées en réalité, des barrières administratives sont installées. Il y a quelques semaines, lorsque j'étais en réunion à haut niveau avec le président chinois, c'est un point très ferme que nous avons exprimé comme Européens. Nous voulons revoir la manière dont la relation avec l'Europe et la Chine est envisagée. Elle n'est pas assez équilibrée, cette relation, aujourd'hui. Et il y a un point très important. Ce matin, 27 chefs d'État et de gouvernement ont pris une décision très forte. Nous voulons mettre en place ce qu'on appelle une mesure aux frontières européenne, afin de faire en sorte, lorsqu'il y a des produits venant de l'extérieur qui viennent vers l'Union européenne, qu'il puisse y avoir un prélèvement sur ces produits, afin justement d'impacter ce qui est aujourd'hui un manque d'équité lorsque des pays produisent sans respecter les normes environnementales, sans respecter les normes sociales, et donc peuvent effectivement pratiquer une forme de dumping contre les entreprises européennes. Moi, je suis pas pour le protectionnisme, ça ce serait un repli qui n'a jamais fonctionné, mais je suis pour la réciprocité, pour ce qu'on appelle le level playing field en mauvais français, c'est-à-dire des règles du jeu équitables et les mêmes pour tout le monde.
Charles Michel, le président du Conseil européen. Voilà pour le signal diplomatique lancé par l'Europe en direction du reste du monde. Voyons maintenant comment se décline précisément ce plan de relance et ce que recouvre cette somme faramineuse de 750 milliards d'euros. Marie Viennot, bonjour.
Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Je commencerai par une question. Faut-il prendre, pour argent comptant si j'ose dire, cet effort financier inédit dans l'histoire de l'Europe ?
Bah, ce qui est inédit, c'est vraiment que l'Union européenne puisse à l'avenir emprunter de tels montants. Pour le moment, elle fait des emprunts, mais ça ne dépasse pas la dizaine de milliards. Là, on parle donc de 750 milliards. Alors sur ces 750 milliards, le Conseil européen a décidé d'en allouer 672 milliards à un fonds de résilience et de relance, alors que la Commission, elle, proposait 560 au départ. Et sur ces 672 milliards, 312 sont bien des subventions, 360 donc des prêts. Mais il faut savoir aussi qu'en accordant plus à ce fonds de relance et de résilience, il a fallu réduire ou annuler d'autres postes du budget européen, notamment la politique agricole commune, certains fonds structurels et de transition juste, ainsi qu'un fonds qui avait été prévu pour la solvabilité des entreprises.
Le commissaire européen Thierry Breton explique que l'emprunt que va contracter l'Union européenne sera remboursé par des ressources propres. Alors, Marie, est-ce que cela fait aussi partie de l'accord signé ce matin ?
Une partie seulement est actée. Ce qui est réellement fait, c'est la taxe sur le recyclage du plastique. La Commission avait proposé cette nouvelle ressource pour compenser le départ des Britanniques et de leur contribution au budget, et ça, c'est fait. En revanche, ce qu'on nomme le mécanisme d'ajustement aux frontières, ou plus simplement taxe carbone, dans l'idée de taxer les produits qui ne sont pas fabriqués avec les mêmes normes environnementales que dans l'UE, ça, il faut encore que cela soit accepté par le Conseil européen lors d'un prochain sommet. Idem pour la taxe sur le numérique ou toute autre nouvelle ressource. La Commission doit donc faire des propositions à ce sujet courant 2021 et elles devront avoir été acceptées à l'unanimité du Conseil avant 2023. Pas avant, car les emprunts qui vont être faits par la Commission commenceront début 2021, mais ils ne seront pas remboursables immédiatement. Alors, dans ce qu'il reste à faire maintenant aussi pour que ce compromis trouvé la nuit dernière devienne réalité, c'est deux choses. Un, il faut qu'il y ait un consentement au Parlement européen. Autrement dit, que les parlementaires européens disent oui ou non. Ils ne pourront pas discuter les modalités de ce plan. Ça devrait être fait dans cette semaine. Et deux, plus compliqué, il faut que tous les parlements nationaux votent une loi qui permettra à la Commission européenne d'augmenter le plafond de ressources propres, son plafond de ressources propres. Il s'agit en fait d'une garantie pour que l'Union européenne ait la confiance des investisseurs. Donc les bases de cet emprunt mutualisé sont donc bien posées, mais il reste encore beaucoup de pain sur la planche et de sommets à venir.
Merci beaucoup Marie Viennot pour toutes ces précisions. Grand oral ce matin pour Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui achève de présenter d'ailleurs les mesures envisagées par le gouvernement dans le droit fil du Ségur de la Santé. Il y avait déjà eu les annonces concernant les salaires des personnels soignants et non soignants dans le secteur public hospitalier. Aujourd'hui, il est plutôt question du fonctionnement, de l'organisation du système de soins, et cela aussi bien à l'hôpital qu'en ville ou dans le secteur sanitaire et social. Un champ très vaste donc, pour des attentes très fortes du secteur de la santé. Que peut-on en retenir pour l'instant, Wafia Kenich, de l'ordonnance dressée par le gouvernement ?
Il faut changer de braquet, a dit le ministre de la Santé, renverser les logiques, des logiques qui ont selon lui pu faire perdre aux soignants le sens de leur travail. Voilà pour la philosophie du propos. Et maintenant sur les mesures concrètes de structure, 33 propositions en tout. Alors que retenir ? D'abord les 4000 lits supplémentaires ouverts ou réouvert à la demande, ce sera en fonction des besoins. Par exemple, il s'agira d'augmenter les places dans une ville touristique pendant l'été ou pendant une grippe saisonnière. 2000 places en plus en école d'infirmiers. Sur le financement, le ministre de la Santé a reconnu que le système actuel poussé à une course à l'activité, il a donc proposé un financement mixte, un mélange entre le système actuel de tarification à l'acte et le précédent où l'hôpital gérait directement son budget. Pour les EHPAD, le médico-social, 2,1 milliards d'euros d'investissement. Il a également rendu hommage aux ARS, aux agences régionales de santé, dont il souhaite renforcer l'action dans les territoires, le nouveau mot à la mode, notamment au niveau des départements. Il a également abordé la question épineuse de l'intérim médical. Certains professionnels de santé profitent, selon lui, du manque de personnel pour réclamer des salaires très élevés. Olivier Véran annonce donc que désormais le plafond réglementaire devra systématiquement être respecté. Le ministre, qui a par ailleurs expliqué qu'au terme de ces 6 semaines de discussion parfois musclées, la négociation se poursuit avec les partenaires sociaux, mais qu'une nouvelle direction a aujourd'hui été prise.
Merci Wafia Kenich. Rappelons que lors de son discours de politique générale, le Premier ministre, dans le même registre, Jean Castex, a promis d'investir 6 milliards d'euros dans le système de santé, enveloppe qui s'ajoute aux 8 milliards prévus pour les salaires et les 15 000 embauches à l'hôpital. En Afrique du Sud, 2 ministres qui ont contracté la Covid ont dû être hospitalisés ces dernières heures, compte tenu de leur état de santé. Il s'agit du ministre de l'Emploi et celui de l'Énergie. L'Afrique du Sud compte à ce jour plus de 373 000 cas confirmés de Covid, dont plus de 5 000 décès. Elle est le 5e pays au monde le plus touché en termes de cas confirmés. Retour en France, le nom du futur président ou de la future présidente de France Télévisions sera connu au plus tard le 24 juillet, c'est-à-dire vendredi. Le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, poursuit aujourd'hui l'audition des candidats, dont Delphine Ernotte, qui brigue un deuxième mandat de 5 ans. Le groupe audiovisuel public emploie 9 600 salariés pour un budget proche de 3 milliards d'euros. Au-delà du nom du futur patron de France Télévisions, voyons justement ce qu'espèrent ou redoutent les personnels dans le contexte du plan annoncé d'économie drastique, de la fermeture de France O et de France 4. Benoît Grossin, vous avez pour cela fait le tour des syndicats.
Des positions claires sur les priorités stratégiques, c'est ce que réclame la CGT majoritaire à France Télévisions sur la question notamment du recours aux moyens internes de fabrication selon le délégué central Pierre Mouchel. Le plan d'investissement dans la création doit être soutenu.
Le plan d'investissement dans la création, il est sanctuarisé à hauteur de 420 millions d'euros par an. Simplement, il y a encore trop peu de droits qui restent en détention à l'entreprise pour justement avoir un retour sur investissement et pouvoir financer les développements. Après, peu importe finalement qui va diriger l'entreprise, si les caps stratégiques sont clairs et ne sont pas des changements radicaux. Donc c'est pour ça qu'on plaide plutôt pour une continuité de la gouvernance.
Dans la continuité avec ou sans Delphine Ernotte, la CGT réclame également le maintien de Franceau et de France 4 à l'approche de leur fermeture annoncée pour le 9 août. Didier Givaudan, délégué SNJ, membre de la rédaction de Franceau, rappelle que la décision émane de l'État actionnaire.
Nous, ce qu'on attend du futur dirigeant de France Télévisions, c'est qu'il fasse pression sur le gouvernement et sur le ministre de la Culture et essayer de le convaincre de l'intérêt de conserver ces deux chaînes. Il ne faut pas abandonner Franceau pour développer autre chose, mais il faut essayer d'articuler les uns et les autres. C'est vrai aussi avec la radio numérique, c'est vrai avec la visibilité sur les autres chaînes du groupe France Télévisions. Tout ça doit se compléter.
Arrêt ou continuité, un décret devrait bientôt être publié pour confirmer ou infirmer la fermeture de Franceau et de France 4.
Les précisions de Benoît Grossin, et on le saura donc vendredi le 24 juillet qui sera le prochain ou la prochaine présidente de France Télévisions. La loi destinée à mieux protéger les victimes de violences conjugales définitivement adoptée aujourd'hui après le vote du Sénat. Le texte autorise les médecins à déroger au principe sacro-saint du secret médical en cas de danger pour leurs patientes. Il alourdit également les peines pour les auteurs de harcèlement ou de violences au sein du couple. L'an dernier, pour mémoire, 149 femmes ont été tuées en France par leur conjoint ou ex-conjoint. À l'étranger, le procès de l'ex-président du Soudan, Omar el-Béchir, s'est ouvert ce matin à Khartoum. Il risque la peine de mort pour son coup d'État de 1989 contre le gouvernement démocratiquement élu à l'époque. Il est resté 30 ans au pouvoir avant d'être renversé l'année dernière. C'est la première fois qu'un ex-dirigeant arabe est jugé pour un putsch réussi. Omar el-Béchir devrait également être jugé prochainement par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et génocide dans le cadre du conflit au Darfour qui avait fait 300 000 morts et des millions de déplacés. C'était dans les années 2003-2004. L'ours blanc pourrait disparaître de la surface du globe d'ici 2100, victime du réchauffement climatique et de la fonte des glaces dans l'Arctique. Terrible échéance, formalisée d'une certaine manière par la revue Nature Climate Change. Le superbe plantigrade est condamné alors qu'il n'en reste aujourd'hui que 25 000. Récit d'une extinction annoncée avec des images pathétique, Véronique Robert.
Oui, vous avez peut-être à l'esprit cette photo prise il y a quelques années près du pôle Nord, dans l'Arctique, d'un ours blanc famélique décharné dérivant sur un morceau de glace condamné à mourir de faim. C'est précisément ce qui menace les plantigrades, la disparition progressive de leur habitat, la banquise qui se désagrège sous l'effet du réchauffement climatique. C'est de la banquise que l'ours blanc chasse ses proies favorites, les phoques indispensables à son alimentation l'hiver et ses périodes de jeûne aussi que l'ours pratique durant l'été. Avec le réchauffement de la planète deux fois plus rapide en Arctique, eh bien, l'absence de glace dure de plus en plus longtemps. Sans glace sur laquelle se poser pour chasser, pas de possibilité pour l'ours de stocker suffisamment de gras pour son jeûne estival. Un drame encore plus crucial pour les femelles ours. Elles doivent attraper suffisamment de phoques pour faire du gras et produire suffisamment de lait pour nourrir leurs petits nés au printemps, les nourrir ensuite pendant tout le jeûne de l'été. L'étude publiée dans Nature Climate Change démontre que désormais le nombre de jours de jeûne qu'un ours peut supporter en fonction de son poids. Sa dépense énergétique décline sérieusement jusqu'à mettre en péril la survie des ours adultes et des petits, chute de la reproduction et par conséquence de survie de l'espèce. Jusqu'à sa disparition en 2100, prévient l'étude, avec ce constat implacable, si on peut lutter contre le braconnage ou aussi la destruction directe des habitats de certaines espèces par l'homme, on ne peut pas construire une clôture pour protéger les ours polaires de la température qui monte.
Merci Véronique Robert-Hotte. On termine avec le Hadj. Le Hadj, vous le savez, c'est le pèlerinage auquel participeront cette année seulement un millier de fidèles à cause, bien sûr, de la pandémie de coronavirus. La date officielle vient de tomber, si j'ose dire. Le Hadj débutera le 29 juillet. Un temps chaud et ensoleillé s'impose un peu partout cet après-midi, sauf sur les Pyrénées, l'est du Massif central ou les Alpes, où des averses pourront dégénérer ce soir en orages parfois très très forts, accompagnés de grêles et de fortes précipitations. Les températures maximales vont être à la hausse de 19 à 24 degrés sur le littoral de la Manche, 24 à 31 au nord de la Loire, 26 à 33 sur une grande moitié sud du pays, avec des pointes toutefois jusqu'à 36 voire 37 degrés dans l'intérieur du sud-ouest, le sud-ouest qui reste toujours la région la plus chaude de France, contrairement à ce qu'on peut penser habituellement. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Excellente journée à tous.